Radio Okapi.
Le journal Blaise Sundari Kambala.
En Ituri, la situation reste préoccupante dans la zone de santé de Tchomia où Ebola a déjà fait 25 morts sur 41 cas confirmés. Les autorités sanitaires attribuent cette forte mortalité à l'arrivée tardive des patients dans les structures de prise en charge. Un changement majeur se profile dans la gouvernance des entreprises publiques. Le gouvernement mise désormais sur la sélection par appel à candidature pour le recrutement des mandataires publics. Le processus a été lancé officiellement vendredi dernier. L'invité de ce journal est Lutumba Jet, administrateur chargé des finances de Wasi Congo, l'entreprise congolaise en charge de la réhabilitation des voiries urbaines de la ville de Matadi. Dans un entretien accordé à Élise Kavira, il revient sur les avancées enregistrées, les défis rencontrés dans l'exécution des travaux ainsi que leur impact sur la mobilité urbaine et le développement de la ville. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal matinal sur la radio de la paix. En Ituri, la riposte contre Ebola fait face à une situation préoccupante. La zone de santé de Tchomia a déjà enregistré 25 décès sur 41 cas confirmés depuis le début de l'épidémie. Un taux de létalité alarmant de 61% révélé dimanche par le médecin chef de zone. Celui-ci pointe du doigt l'arrivée tardive des patients dans les centres de santé, réduisant considérablement leurs chances de survie. Martial Kizabiamongo.
La zone de santé de Tchomia, située au bord du lac Albert, est aujourd'hui parmi les plus touchées par l'épidémie d'Ebola depuis sa déclaration par le gouvernement le 15 mai dernier. Selon les médecins chefs des zones de santé de cette entité, 41 cas positifs sont déjà enregistrés, dont 25 décès. Le docteur Hervé Bavi s'inquiète de ce taux de létalité élevé. Il indique que la plupart des décès sont dus à l'arrivée tardive de malades dans les structures sanitaires. Il ajoute que beaucoup meurent dans la communauté, ce qui augmente les risques de contamination. Pour faire face à cette situation, il appelle à la prise de conscience de la communauté où certains continuent de nier l'existence même de cette maladie. Par ailleurs, les équipes de riposte ont installé sur place à Tchomia un laboratoire mobile. Objectif, diagnostiquer les cas suspects et anticiper la prise en charge dans les centres de traitement local. Bounia, Marseille. Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Face à la menace persistante d'Ebola, la société civile de Kassindi-Loubiria appelle à une mobilisation générale. Cette structure citoyenne organise depuis ce lundi une campagne de sensibilisation de 3 jours dans 2 quartiers de cette cité frontalière du territoire de Beni. Objectif, renforcer la vigilance communautaire et promouvoir les comportements préventifs pour limiter la propagation de la maladie. Elle plaide également pour un renforcement des mécanismes de prévention et de surveillance dans cette zone à forte affluence. Jean-Paul Zaidi, rapporteur de la société civile locale, est au micro de Marc Marofimbo.
Il y a des mouvements intenses des gens qui nous viennent de la province voisine de l'Ituri, également de la ville commerciale de Butembo où il y a plusieurs cas répertoriés de l'autre côté. Nous appelons la population au strict respect des mesures de prévention édictées par les autorités sanitaires. Nous encourageons également les autorités à renforcer la surveillance transfrontalière et à la sensibilisation communautaire afin de prévenir toute propagation des maladies. Nous appelons également les responsables des marchés, également les responsables des endroits ou des milieux qui sont couramment fréquentés, de renforcer beaucoup plus la disponibilité de l'eau dans les dispositifs préalablement installés pour le lavage des mains. Ça peut beaucoup plus aider la communauté. La lutte contre Ebola est une responsabilité collective. Il ne s'agit pas seulement d'une responsabilité des autorités sanitaires. Nous appelons toute la population à se mobiliser comme un seul homme. Ça va contribuer beaucoup plus à une sensibilisation communautaire permanente.
Je le disais tout à l'heure en titre, un tournant pourrait s'opérer dans la gestion des entreprises publiques en RDC. Le système de désignation des mandataires publics est appelé à céder progressivement la place à un recrutement fondé sur la compétence et le mérite. Le gouvernement a officiellement lancé vendredi dernier le processus de sélection des futurs mandataires publics. Selon la ministre du portefeuille, cette démarche repose sur plusieurs principes, notamment l'indépendance, la transparence, la concurrence, le mérite, l'équité et la représentativité du genre. 15 entreprises publiques en sont déjà concernées par cette première phase. Plus de détails dans cet extrait du compte-rendu du Conseil des ministres de vendredi dernier, lu par Patrick Mouyayakatemboué et sélectionné par Jean Gandou.
Il concerne près de 140 postes de mandataires publics des dites entreprises prioritaires afin de garantir la qualité et la maîtrise opérationnelle. Ces processus sera conduit en 3 vagues successives de 5 entreprises chacune. La première vague portera sur les entreprises stratégiques suivantes SNEL SA, Résideso, SNCC, RVA, ONATRA pour les fonctions du président du conseil d'administration, directeur général adjoint administrateur. Les mandataires déjà désignés à l'issue du processus compétitif ne sont pas concernés par ces processus. La ministre du portefeuille a préciser que ces processus reposent sur les principes d'indépendance, de transparence, de concurrence, des mérites, d'équité, de représentativité du genre. Pour chaque poste à pourvoir, un avis d'appel public à candidature, accompagné des termes de référence, sera largement diffusé par voie de presse et sur les plateformes numériques dédiées. Les processus sont ouverts à tous les citoyens congolais résidant sur le territoire national ou à l'étranger, les candidatures étant soumises exclusivement par voie électronique. Pour le gouvernement, il s'agit d'une étape majeure dans la réforme de la gouvernance des entreprises du portefeuille des État. Elle traduit la volonté du gouvernement de promouvoir un mode de désignation fondé sur la compétence, les mérites, la transparence, la performance et la redevabilité.
Revenons à Ituri où la mobilisation citoyenne se poursuit face à l'insécurité grandissante. Dans plusieurs localités de la chefferie de Babila-Babombi, en territoire de Mambasa, les activités socio-économiques sont restées largement paralysées ces lundi. À l'origine de cette situation, un appel à 2 jours de journée ville morte lancé par la coordination locale de la nouvelle société civile congolaise. Les organisateurs entendent dénoncer la recrudescence des attaques meurtrières attribuées aux rebelles des ADF, mais aussi les multiples tracasseries routières auxquelles sont confrontées les populations. Les détails avec Martial Kizabiamongo.
Dans les centres de Biakato, Bela et d'autres agglomérations de la chefferie de Babila Babombi, boutiques, magasins et plusieurs services sont restés fermés ce lundi. Selon des sources locales, la population a répondu massivement à l'appel de la nouvelle société civile locale. Cette structure indique que ces mouvements visent à dénoncer la recrudescence des attaques attribuées aux rebelles des ADF, ainsi que les nombreuses tracasseries routières signalées sur différents axes des secteurs agricoles. Coordonnateur Moindo Mamboro estime que la forte mobilisation observée traduit le mécontentement de la population face à cette insécurité persistante qui a affecté la région depuis plusieurs années. La nouvelle société civile congolaise appelle les autorités à apporter des réponses concrètes à ces revendications. De son côté, l'administrateur du territoire de Mambasa, Jean-Baptiste Mouniapandi, invite les organisateurs à ne pas poser d'actions susceptibles de favoriser les ennemis de la paix. Bounia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, dans les territoires de Lubero, le retour progressif des populations déplacées dans le groupement des Moignés se poursuit depuis le mois dernier. Mais pour de nombreuses familles, le chemin vers une réinstallation durable reste semé d'embûches. Habitations détruites, champs ravagés, accès limité aux soins de santé et à l'eau potable, ainsi que routes fortement dégradées compliquent le quotidien des retournés après plusieurs mois d'exil provoqués par l'insécurité. Face à cette situation, les habitants appellent les autorités et les partenaires humanitaires à renforcer leur soutien. Prince Cassiano, membre du conseil local de la jeunesse de Moigné, décrit la situation au téléphone de Marc Marofimbo.
Il est vrai que plusieurs familles sont déjà rentrées dans les groupements. Et cependant, nous faisons face à de nombreuses difficultés. Et la plupart de nos habitations sont détruites. Les routes sont fortement dégradées. Les cultures dans les champs ont été perdues. L'accès aux services de base reste très limité. L'eau potable est difficile à trouver et les soins de santé n'est pas facilement accessible. Et bien que certains centres de santé aient rouvert leurs portes, ils fonctionnent dans des conditions précaires à cause de la sécurité, même dans les structures de santé opérationnelles, les habitants ont des difficultés à payer les frais médicaux. La majorité n'a aucune ressource financière, étant donné qu'ils reviennent du déplacement sans moyen de subsistance. Le transport est également devenu très coûteux à cause des mauvais états des routes.
Un constat que partagent également les chefs du groupement des Moignens. Cette autorité coutumière indique toutefois que les forces armées de la RDC sont désormais déployées dans la zone afin de renforcer la sécurité des villages et de faciliter le retour progressif des populations déplacées. De quoi demain sera-t-il fait? C'est autour de cette interrogation qui s'est articulée ce lundi à Kinshasa, la matinée politique animée par les députés nationaux Lambert Mende Omalanga, initiateur de la Convention des Congolais Unis CCU. L'élu de Lodja a livré une réflexion prospective sur les grands défis auxquels la RDC est confrontée, avec un accent particulier sur la crise sécuritaire qui secoue l'est du pays depuis près de 3 décennies. Abordant la question du dialogue inclusif, Lambert Mende s'est opposé à la participation des Congolais qui, selon lui, continuent de collaborer avec les forces d'occupation ainsi qu'à celles des personnes condamnées par la justice ou visées par des sanctions internationales. Les propos de Lambert Mende Omalanga ont été recueillis par Richard Junior Kiamonga.
Nous entendrons l'idée d'ouvrir le dialogue à des personnes du fond condamnées par la justice ou sanctionnées par la communauté internationale pour collusion avec l'agresseur. Cette idée n'est pas acceptable parce que les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Les individus ombres des groupes armés actifs aux côtés de l'agresseur rwandais et qui ne se désolidarisent pas formellement de cet agresseur. Ces deux catégories de compatriotes devraient être déclarées non éligibles au dialogue intuito personnel, c'est-à-dire à titre personnel. Une loi référendaire ne doit pas être confondue, comme on l'entend ci et là, avec l'organisation d'un référendum. Adopter une loi référendaire, ce n'est pas organiser un référendum. Et les intellectuels brillants que vous entendons écoissés matin, midi et soir, à le sud de rêve et savoir.
Cap sur le Haut-Katanga où l'exécution du projet routier Kasomeno Kasenga-Chaloué progresse régulièrement. À la fin du mois de juillet, le directeur général adjoint de l'Agence congolaise de grands travaux, Jean-Claude Midombwete, a effectué une mission de suivi sur le terrain afin d'évaluer l'état d'avancement des travaux. Cette visite a notamment été marquée par l'inspection du chantier dans le territoire de Kasenga et par des réunions du comité de pilotage réunissant les différents partenaires du projet. Plus de détails avec Paul Emunanga.
Lors de l'examen de ce projet, GED Congo concessionnaire a réaffirmé son engagement à respecter les calendriers d'exécution convenus. Les participants à cette rencontre ont également étudié les recommandations issues de la réunion technique du 29 juillet et adopté une nouvelle matrice de responsabilité destinée à renforcer la coordination entre les différentes parties prenantes. Clôturant les travaux du comité de pilotage, le DGA de la CGT Jean-Claude Midombwete a salué l'engagement de l'ensemble des partenaires. Il les a exhortés à maintenir cette dynamique afin de garantir la réalisation du projet dans le respect des délais contractuels, des normes techniques et des exigences de qualité. À noter que le corridor Kasomeno-Kasenga-Chaloué permettra de relier directement le Haut-Katanga à la Zambie sans passer par Kasumbalesa, réduisant d'environ 240 km les trajets vers les ports de Dar es Salaam. Sa mise en service est prévue pour juillet 2027. Signalons que dans cette mission, le directeur général adjoint de la CGT Jean-Claude Midombwete était accompagné de certains collaborateurs. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Une bonne nouvelle pour les élèves du Maniema avant de refermer ce chapitre consacré aux informations nationales. La Fondation Mapone prévoit d'octroyer cette année plus d'une centaine de bourses scolaires à des élèves du primaire et du secondaire. L'annonce a été faite le week-end dernier à l'issue d'une rencontre réunissant les représentants des communautés ethniques, des confessions religieuses ainsi que des structures para-étatiques de la province. Selon la Fondation, chaque communauté ou confession religieuse est invitée à présenter 4 candidats. Les bénéficiaires seront ensuite sélectionnés à l'issue d'un concours basé sur les mérites. Florence Kizalunga.
À l'annonce de cette nouvelle, plusieurs parents qui n'étaient pas à mesure de scolariser leurs enfants à l'école primaire Mapon et à l'Institut Mapon ont exprimé leur joie.
Nous autres n'avons pas de moyens de faire étudier les enfants à l'école Mapon, mais aujourd'hui, ils nous donnent cette occasion et brèche que nos enfants puissent étudier gratuitement à l'école Mapon. Nous disons merci.
De son côté, la société civile appelle à la transparence dans le processus de présélection des candidats. Elle met en garde les parents et les responsables des églises chargées de désigner les enfants qui prendront part au concours. Maître Stéphane Kamunda la s'exprime.
Aux parents, aux églises qui ont la charge d'opérer les choix des enfants qui doivent venir les représenter pour la province, d'être trop objectifs et de ne pas rentrer dans les sentiments, dans les tractations inutiles qui ne voudront pas aider la province à aller de l'avant.
Les églises et les différentes communautés s'engagent quant à elles à faire preuve de sérieux afin de permettre aux enfants du Maniema de bénéficier équitablement de ces bourses. C'est ce qu'a déclaré Zachary Katanda, évêque anglican.
Je confirme que nous allons rendre une tâche facile à la Fondation pour que la vision soit bien réalisée.
Pour la Fondation Mapon, cette initiative s'inscrit dans une vision d'investissement dans les capitales humains. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
La traversée illégale des migrants du Maroc vers Ceuta a fait au moins 11 morts, selon les ministères de l'Intérieur marocains. Elle a fait également des dizaines de disparus, selon l'association marocaine des droits humains, AMDH. L'association tente donc d'aider les familles inquiètes à retrouver leurs proches.
L'invité.
Notre invité de ce journal est Lutumba Jet, administrateur chargé des finances au sein de Wassi Congo, entreprise engagée dans la réhabilitation des voiries urbaines de Matadi. Il revient sur l'état d'avancement des travaux, les principaux défis rencontrés, ainsi que leur impact sur la mobilité des habitants et le développement de la ville. Lutumba Jet est au micro d'Élise Kavira.
Monsieur Lutumba Jet, bonjour.
Bonjour.
Wassi Congo, une entreprise locale, nationale, internationale. Pouvez-vous nous en parler en quelques lignes?
Wassi Congo est une entreprise de droit congolais ayant son siège social à Kinshasa avec une expérience de 14 ans dans le domaine des constructions. Actuellement, nous sommes à Matadi pour le projet de construction de quelques voiries dès la ville de Matadi.
Justement, quels sont concrètement les travaux qui seront exécutés ici à Matadi?
Nous avons plus ou moins 7 km 200 et des érosions qui est composé de 3 axes. Le premier commence par le PK0, donc Soyo Antenne, juste après le 4 building jusqu'à les copains vers la sortie Mvoidou, en passant par Toulouse, Ndemba, et ce qui fait moyenne 3 km. Et le deuxième axe part de la place Belvédère jusqu'à l'hôpital de Lonatra dans le camp Banana, en passant par le terrain Biwewe, ce qui nous fait 2,2 km à peu près. Et enfin, le troisième axe part de la place Belvédère jusqu'à l'hôpital de Lonatra pour faire la jonction avec celui de Biwewe, en passant par l'école ITP Belvédère, et le Désérosion et Pomme et Atesam, qui aujourd'hui se trouve à un état complètement avancé, qui a totalement tranché la route et la population est privée des passages des véhicules.
Et ces travaux s'étendront sur quelle durée?
Les projets de Matadi est pour 2 ans. Ça, c'est le deadline. On a lancé officiellement le travaux au mois de juin de cette année, de manière officielle, mais il se fait que déjà on a été présent pour mettre le palissade, faire des expropriations, parce que vous conviendrez avec nous qu'il y a des emprises sur la chaussée, donc il y a des maisons ou des étals qu'il faut mettre, qu'il faut casser, ou juste pour permettre à ce que le chaussée passe dans le périmètre ou sinon le dimension tracé par les études. Voilà.
Ce projet est attendu par la population matadienne depuis plusieurs mois. Quel est son impact réel sur la vie quotidienne des matadiens?
Je dirais que ce projet est très, très, très capital parce que c'est un ouf de soulagement pour la population de Matadi, précisément, pour ceux-là qui sont du côté Ndemba, Soyo, et aussi un avantage. C'est-à-dire aujourd'hui, vous constaterez avec moi tout ce qu'on a comme question d'embouteillage au niveau de Matadi. Donc cette route est vraiment salvatrice dans le sens que on va désenclaver en même temps et désengorger le RN1 qui est aujourd'hui embouteillé par de remorques.
Donc, des fois, on arrive à Matadi, on fait 2 heures et 2 heures. Et aujourd'hui, il y a une autre tranchée qui peut permettre à ceux que dès l'entrée déjà, en, les copains, ceux qui vont vers Kinkanda, qui vont vers Soyo, c'est une grande population, peuvent prendre cette route-là sans pour autant passer par 24 ou passer par la place Coca-Cola. Donc, cette route-là va aider en même temps à développer, vous connaissez l'importance des infrastructures, à développer l'environnement, à aider à la population de vaquer librement à leurs occupations et profiter pleinement de cette infrastructure pour lancer leurs économies et tout ce qui va avec comme effet d'entraînement.
Où en êtes-vous avec les travaux en ce moment?
Pour cette première partie, nous avons lancé les projets. On a commencé avec déjà à mettre des collecteurs qui vont commencer à recevoir de l'eau qui viendra des parties. Vous connaissez, vous savez très bien que Matadi c'est montagneux. Alors, donc une grande partie des eaux va se déverser de l'autre côté. Donc, on a prévu des collecteurs. Déjà, je pense que c'est si vous êtes passé par là, vous allez constater qu'on a déjà construit. Et là, nous avons commencé avec des fouilles, le terrassé, pour permettre à ce que qu'on donne la forme à ces chaussées et permettre à ce que la qualité de la route qui sera mise, qui sera construite, soit de très très bonne qualité avec le contrôle de partenaires qui est le BTC, l'OVD ainsi que le contrôle de la ville, la mairie et tout ce qui va avec.
Monsieur Lutumba Diet, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup, à la prochaine.
Voilà qui met fin à ce journal préparé pour vous par Richard Junior Kamunga et mis en onde par Alain Goy. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.